à voix nue. Toute cette semaine, Judith Maillet rencontre Charles Anderlin. Ce soir, un journaliste franco-israélien à Jérusalem.
Bonsoir Charles Anderlin.
Bonsoir.
Hier, nous avons parlé de votre enfance et de votre arrivée en Israël, au kibboutz Dafna. Et après bien des péripéties, en quittant le kibboutz, vous décidez de rester en Israël avec femme et enfant. Mais la question est de savoir quel métier vous allez pratiquer. Or, vous avez arrêté vos études de médecine à Nancy. Et alors, vous avez, en 1971, la possibilité de travailler dans une radio avant de devenir correspondant pour RMC, puis éditeur pour Kol Israël, la Voix d'Israël, la radio nationale. Diriez-vous que vous êtes entré dans le métier par hasard ou bien dès le début, l'évidence s'est imposée ?
Ah, tout à fait par hasard. Si on m'avait proposé un job dans un laboratoire à l'université sur la base de ce que j'avais fait au département de physique médicale à Nancy, j'aurais continué, j'aurais repris des études. La bourse que je devais recevoir du ministère de l'intégration n'arrivait pas. Des années plus tard, on a appris que le type qui devait les verser aux étudiants les mettait dans sa poche. Il a fini en procès. Marié, il faut absolument mettre du beurre sur les épinards et plus. Donc le premier job qui s'est présenté, le premier emploi, je l'ai pris. C'était d'abord présenter des nouvelles à la radio israélienne et puis également devenir rédacteur. Alors n'ayant jamais fait d'école de journalisme, n'ayant pas de diplôme de Sciences Po et ayant tout et pour tout un baccalauréat français, j'ai eu un excellent rédacteur en chef de nouvelles qui m'a fait faire pendant des années, qui m'a fait faire un goulag de nouvelles brèves, nouvelles brèves. Et d'ailleurs, plus tard, lorsque j'étais chef de bureau de France 2 et que j'avais des stagiaires, quand ils arrivaient, ils me demandaient quoi faire, je leur faisais faire d'abord des nouvelles brèves. Et après, on verra s'ils comprennent le journalisme. Je pense d'ailleurs que c'est la base du métier.
Et puis, c'était pas dans votre langue, Charles Anderlin, c'était en hébreu.
Non, mais je travaillais en français et aussi, bien entendu, en hébreu. Mais les émissions étaient en français. Commencer à faire du reportage, les choses devenaient très logiques. Donc, c'est effectivement une formation sur le terrain, sur le tas, qui m'a beaucoup apporté.
Alors, nous sommes en septembre 1973, c'est ce que vous nous disiez hier soir, et au moment où vous songez à partir vivre au Chili avec femme et enfant, Charles Anderlin, le coup d'état militaire bouscule vos plans, et vous restez en Israël, mais à peine quelques semaines plus tard, la guerre de Kippour éclate. Donc c'est la première fois que vous assistez à un conflit armé, et comment, en tant que journaliste, vous avez été amené à couvrir ce conflit ?
Des premières étapes, la communication israélienne, militaire et gouvernementale est « nous sommes en train de repousser l'ennemi aux frontières ». De fait, il n'y a pas de bombardement, on n'entend pas de sirène à Jérusalem, si ce n'est les premières heures de la guerre pour amener les gens les hommes vers les centres de mobilisation de réservistes. Mais oui, bon, pourquoi pas. Alors je traduis les dépêches qui me viennent des émissions en hébreu, qui sont plus ou moins contrôlées par le porte-parole de l'armée. Et puis, il se passe rien. On n'a pas de nouvelles du front du Golan, on n'a pas de nouvelles du front du canal de Suez. Et puis tout doucement, ça commence à arriver. Et je crois que je voulais raconter hier le directeur des nouvelles en hébreu, le grand patron du principal bulletin d'information radio en Israël, est fou de joie. Il est persuadé que les chars de Tzahal sont arrivés dans les faubourgs de Damas. C'était faux. Au même moment, son fils se faisait tuer sur le Golan.
Oui, vous parliez de propagande, Charles Anderlin.
Oui, la communication était fausse. Je vois arriver un correspondant militaire. C'était des civils, des jeunes professeurs ou des étudiants qui étaient ou des journalistes qui étaient mobilisés par le porte-parole de l'armée. J'en vois le professeur Yovel, qui est devenu beaucoup plus tard professeur, arriver, prendre à part quelques rédacteurs en hébreu, leur dire « ça marche pas du tout comme ça, ça se passe très mal sur le canal de Suez, on a perdu beaucoup d'hommes ». Là, on me propose de partir en reportage pour les nouvelles en français dans le nord, en Galilée. Donc j'arrive, tout a l'air à peu près calme. Comme dans le reste d'Israël, il y a très peu d'hommes, ou très jeunes, ou plutôt âgés. Et je rentre dans la poste pour envoyer mon matériel par un faisceau sur Jérusalem. Et les postiers me disent, tu es la radio israélienne, mais qu'est-ce que vous nous racontez comme bobard matin, midi et soir? C'est faux. Et je dis, pourquoi? Puis il vient voir, on sort de la poste et on voit des avions israéliens bombardés du côté Haute-Galilée du Golan. Après, je monte sur le Golan et on arrive dans un secteur déjà où il y a eu pas mal de combats et je suis devant un hôpital de campagne. Et je tombe sur un médecin qui par hasard parlait le français et puis me dit, viens voir. Et on va derrière la tente et je vois une rangée d'une vingtaine de corps de militaires où on voit sous les couvertures des chaussures rouges, des paras, des chaussures noires, des tankistes qui passent. Tu vois, c'est ça la guerre, il me fait. Ensuite, on avance en zone, cette fois syrienne, occupée par Israël, et je suis en train d'interviewer un tankiste, et tout à coup, on entend des obus qui tombent très près. Le temps que je me retourne pour voir où ça tombait, le tankiste, il est déjà plus là, lui, il est sauté dans son char, il a fermé l'écoutille, et puis nous, on se retrouve, un petit groupe de civils, sous le bombardement. Alors on se met entre deux maisons, et puis bon, c'est la première fois que ça me tombe si près. Et puis je regarde, et tout à coup, je sens quelque chose qui tremble fort à côté de ma jambe. Et je regarde, c'était un chien qui était terrorisé et qui était venu se réfugier contre moi. Et là, j'ai commencé à réaliser ce qu'était la peur.
Alors, vous avez peur, vous, Charles Anderlin, à ce moment-là?
Écoutez, oui, oui, c'est pas sympathique, hein. On fait attention quand même où on va, on ne panique pas, et puis on a attendu une accalmie, et puis on s'est barré ailleurs.
Et à ce moment-là, est-ce que ça joue comme une révélation par rapport à votre métier?
Non. Non.
En même temps, on vous a reproché d'avoir nourri la propagande à la radio. Plus, ce sont les termes que vous employez tout à l'heure. Et puis,
moi, j'ai pas nourri. Moi, j'ai fait mon travail. C'est-à-dire, le rédacteur devait diffuser les infos qu'on lui donnait. Alors, il y a une manière de faire la nouvelle. Moi, j'ai toujours été un peu sceptique de tout ce qui était autorité. Mais la guerre d'octobre, la guerre de Kippour, m'a inculquer des doutes fondamentaux pour tout ce qui vient d'informations officielles. Il faut tout vérifier, tout regarder, et à partir de là, je commence à regarder les choses différemment. J'ai travaillé encore à la radio israélienne les années suivantes. Je commençais à rencontrer, à aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, à Jérusalem Est. Les Palestiniens, je commence à devenir copain avec des gens qui nous racontent les choses un peu différemment que ce qu'on nous raconte complètement côté israélien-juif. Et on voit le problème palestinien qui commence à se développer.
Mmh. Et ça a changé votre regard et peut-être votre manière de travailler, Charles Anderlin?
Écoutez, non. Cela dit, quand en 75-76... il y a eu la campagne du mouvement Gush Emunim, les sionistes religieux, en faveur pour développer la colonisation, développer les implantations en Cisjordanie, qui étaient, il y en avait très peu, il y en avait à Hébron, un petit peu sur le Golan, et ils voulaient absolument s'implanter de force dans le centre de la Cisjordanie. Yitzhak Rabin était le premier ministre. Et des personnalités juives originaires de France qui habitaient les beaux quartiers de Jérusalem n'aimaient pas du tout les commentaires de Charles Anderlin sur la radio israélienne. Et là, on a commencé à me donner déjà un diplôme de juif qui a la haine de soi.
Ah, ça remonte déjà à 76.
Il y avait régulièrement des plaintes auprès de la direction de la radio et de la télévision. Alors, ce qui était intéressant, c'est quand à partir de 77, on a eu un Menachem Begin au pouvoir et le patron de l'office de radio et de télévision était un journaliste très marqué à droite, Tommy Lapid. Il y a deux reprises des plaintes, j'ai été convoqué chez le grand patron, pourquoi tu as dit ça comme ça, pourquoi tu as dit ça. Je dois dire qu'à chaque fois, il m'a soutenu. Il m'a dit, c'est du journalisme, c'est correct, voilà. Alors bien entendu, il y avait des gens qui sautaient lorsque, par exemple, dans un papier, j'utilisais le terme de terre arable. Et bien entendu, on comprenait terre arabe, et c'était en conseil de discipline, et j'arrivais avec le dictionnaire.
Et est-ce que vous, ça vous a perturbé, le fait d'être comme ça, sous le feu des critiques, si j'ose dire ?
Jamais. Jamais. Non.
Non. Parce que pour vous, c'est une valeur importante
de... Non, c'est pas une valeur, c'est la réaction des autres ne doit pas influencer le travail journalistique. Il y a une rédaction, il y a une hiérarchie, le journaliste doit faire son travail tel qu'il pense nécessaire de le faire, selon son éthique, selon ses règles. Si la direction du média pense que ça ne doit pas passer comme ça, c'est eux qui coupent. Mais le correspondant, le journaliste, ne doit pas s'auto-censurer.
Alors, plusieurs autres événements politiques marquants ont jalonné votre carrière, Charles Landernin. Et en 1977, vous couvrez la venue d'Anwar el-Sadat, le président égyptien, à Jérusalem. Sadat qui obtiendra en 1978 le prix Nobel de la paix avec Menachem Begin pour les accords de Camp David. Est-ce que ça marque un tournant important dans votre carrière, sachant que, évidemment, c'est un moment très important dans la relation d'Israël avec ses voisins?
Dans ma vision, c'est fabuleux. Il faut bien comprendre. La communication du ministère des Affaires étrangères nous expliquait qu'Anwar el-Sadat était une sorte de Hitler égyptien, prêt à sacrifier 1 million d'hommes pour reconquérir le Sinaï et battre Israël. Et puis, un beau matin, dans la grande salle de rédaction, je vois le responsable des affaires arabes de la rédaction sauter en l'air. Et il nous regarde, il nous fait, c'est fou. Sadat vient de dire qu'il est prêt à aller à la Knesset à Jérusalem. Et je me rappelle de cette séance de la rédaction, on était pliés en deux, il y a quelqu'un qui lance une blague. Il va aller à Yad Vashem au mausolée, enfin, au mémorial de la Shoah, et on était pliés en deux. Il y en a un autre qui dit, puis va allumer la flamme éternelle à l'entrée de la Knesset. On était écroulés. Et puis tout à coup, ça se fait. Et je vais à l'aéroport, il est arrivé un samedi soir, ça date. Mais le vendredi, on a déjà eu une première délégation qui est venue. Et on voit un avion égyptien sur l'aéroport de Tel Aviv. C'est hallucinant. Je sais pas, c'est incroyable. L'ennemi est là. Et le Shabbat, le samedi, toute la ville vient devant l'hôtel du roi David, où maintenant flotte aux côtés du drapeau israélien, un drapeau égyptien. Imaginez tout à coup le drapeau de l'ennemi en plein cœur chez vous. Et à l'entrée de l'hôtel, vous avez 2 gardes du corps. Un égyptien, un israélien. Les ennemis. Il y a quelques années plus tôt, 2500 morts israéliens, des dizaines de milliers de morts égyptiens, des dizaines de milliers de blessés. Et quelqu'un va mettre un micro pour voir qu'est-ce que ces 2 gardes du corps, de quoi ils parlent. C'était combien tu gagnes, combien je gagne. C'était tout à coup, des gens venaient s'asseoir sur le rebord du trottoir et pleuraient. Imaginez les gens vivaient dans une peur de la reprise de la guerre. On venait d'avoir, encore une fois, 2500 morts. Avec la guerre d'octobre, a été une guerre épouvantable. Des cimetières provisoires, des gens disparus, des corps que l'on recherche encore à l'heure actuelle pour les Israéliens. Et Sadat arrive à l'aéroport. Par la suite, j'ai appris qu'il y avait des militaires israéliens qui étaient persuadés que c'était en fait un commando qui allait débarquer pour liquider la direction israélienne. Ils avaient mis des tireurs d'élite sur les toits de l'aéroport au cas où ce ne serait pas Sadat qui sortirait de l'avion. Et puis à côté de moi, sur l'estrade, à l'aéroport, il y a un type pleure. Puis je regarde. C'était un espion israélien qui avait fait 18 ans de prison en Égypte. Et qui maintenant voit le président égyptien arriver. C'était extraordinaire. C'était l'impression que cette fois, tout était possible, que la paix allait arriver. La paix n'est pas arrivée, mais la visite de Sadat prouve que c'est faisable.
Alors, vous continuez à documenter cette réalité pleine de péripéties. Et en 1981, vous devenez pigiste pour Antenne 2, Charles Landernin. Quel nouveau cap passez-vous en travaillant pour la télévision française ?
D'abord, écoutez, c'est l'envie d'utiliser un autre média. C'est plutôt sympa. J'ai fait ça avec mon ami de la radio israélienne, Didier Eppelbaum. comme il s'agissait de piges et qu'on continuait à faire des nouvelles à la radio israélienne, c'était l'époque aussi où les nouvelles en français étaient écoutées dans toute la région. C'était une émission destinée aux intellectuels parlant français dans le monde arabe. C'est-à-dire, on était censé avoir un certain niveau. Et on a commencé à faire des sujets un peu. Le premier sujet qu'on a fait, c'était justement l'esplanade des mosquées, le mont du temple et le mur des lamentations. C'était 3-4. Maintenant, c'était une époque où on travaillait déjà avec une vidéo très lourde, de temps en temps avec un peu de film, et envoyer un satellite, c'était toute une histoire, et il fallait être sûr que le sujet allait coller. Je crois qu'on ne l'a même pas refait, je crois qu'on l'a réussi à le faire correctement du premier coup, et je crois qu'ils l'ont effectivement diffusé.
Et quels souvenirs vous en gardez alors de ce premier reportage ?
Bah écoutez, c'est d'abord apprendre un nouveau métier, apprendre à couper, à faire coller l'image aux idées, à accrocher le téléspectateur avec une image forte au début, ne pas être didactique, mais enfin voilà, c'est même pas sur le fond que plutôt travailler la forme.
Et l'un des événements les plus marquants de cette période, Charles Anderlin, c'est la guerre au Liban en 1982. Et Antenne 2 couvre notamment le massacre de Sabra et Shatila. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là ?
Alors, avant Sabra et Shatila, la radio israélienne m'envoie à Beyrouth pour amasser du son en français. Les Maronites parlent français, écoutaient la radio israélienne et Anderlin, il savait qui j'étais. Par contre, les vedettes de la radio israélienne en hébreu, inconnues à Beyrouth. Donc j'étais reçu chez les chrétiens à Beyrouth. J'arrive à un bled qui s'appelait Jdeide El Metn. Et je demande aux gens dans la rue, Pierre Djemayel, le vieux patriarche, je voudrais bien interviewer Pierre Djemayel. Avec un copain des émissions en anglais, on débarque chez Pierre Djemayel. Et j'ai un moment hallucinant avec ce vieux pharmacien. Il avait une pharmacie à un moment donné à Ashrafieh. Il me raconte comment il allait acheter du chocolat en Palestine chez les Juifs. Et je lui pense, mais vous savez, ici, pourquoi les forces libanaises chrétiennes ne participent pas au combat aux côtés de l'armée israélienne ? Mais attendez, me dit Pierre Djemayel, nous les Maronites, on sera les derniers à faire la paix avec Israël. Nous ne pourrons pas nous le permettre, nous sommes une minorité dans le monde arabe, et faites d'abord la paix avec vos Palestiniens, avec le reste, à ce moment-là, nous, on viendra. Et je lui dis, mais vous savez, il y a des soldats israéliens qui meurent pour vous ici, pour vous défendre. Ah non, c'est pas pour nous, c'est pour vos propres intérêts. Et je cours au point de diffusion de la radio israélienne en hébreu à Beyrouth, et je leur dis, les gars, on n'a rien à faire ici. Pierre Djemayel nous dit qu'il n'y aura jamais la paix. On nous a vendu qu'on faisait cette guerre pour amener une paix régionale. On me regarde, on me dit, mais qui c'est Pierre ? C'est son fils Bachir qui est le plus important. Bon, ils ne l'ont jamais diffusé en hébreu. Je l'ai passé en français. Après cette guerre, j'ai un coup de fil d'un officier supérieur des renseignements militaires qui me dit, je fais une thèse de doctorat sur Djemayel. Je ne peux pas utiliser, bien entendu, les matériels des renseignements militaires, mais je ramasse tout ce que je trouve, et ton interview montre qu'on n'avait rien à faire au Liban. Et il est dans sa thèse, etc. J'ai fait quelques reportages, je reviens à Jérusalem, je suis avec Philippe Rochaud, mon ami, au studio à Jérusalem, et on apprend effectivement un massacre, et puis là, les choses vont assez vite. On découvre que l'armée israélienne a laissé les phalangistes pénétrer dans les camps et commettre les massacres. Il y a une commission d'enquête qui sera formée après. Ariel Sharon obligé de démissionner. Et la preuve, une fois de plus, qu'Israël n'avait rien à faire au Liban. Et d'ailleurs, pendant des décennies, Israël a gardé une zone de sécurité au sud du Liban où des soldats et des civils, soldats israéliens et des civils libanais et des combattants sont morts par centaines au fil des ans.
Et le reportage, Charles Anderlin, que vous avez fait au Liban, est-ce que, enfin, comment il a été reçu d'une part en France, puis d'autre part en Israël ?
Écoutez, au Liban, ces reportages, c'était pas pour la France, c'était plutôt des reportages sur la radio israélienne. Je me souviens pas de réaction spéciale. C'est passé sans problème. Et au contraire, les experts, les spécialistes, les gens qui analysent ont utilisé certainement mon matériel.
D'accord. Et pour autant, le fait d'avoir la double casquette, radio et télévision...
Je n'ai pas mélangé.
Oui.
C'est-à-dire, radio, c'est la radio israélienne. Quand je suis radio israélienne, d'abord, je fais selon les règles qu'il faut faire, en gardant de toute manière ma liberté, ce qui m'a valu aussi pas mal de mécontentement d'un certain nombre de gens. Et puis la télé...
De qui, par exemple?
Des gens que j'appelais les ayatollahs de Rahavia, qui est un quartier chic de Jérusalem. Je vous laisse imaginer qui ces ayatollahs peuvent être.
Vous voulez pas nous en dire plus, Charles Anderlin?
C'est des personnalités religieuses francophones.
Donc, vous avez cette double casquette, et au bout d'un moment, malgré tout, comme ça n'est pas exactement le même métier, que ça crée un paradoxe peut-être pour le journaliste que vous êtes, vous décidez de vous consacrer uniquement à la télévision.
Non, ça c'était le début de la première Intifada. Début décembre 87, les Palestiniens se soulèvent. D'abord, j'ai un peu de mal à persuader ma rédaction et les chefs de ma rédaction à Paris que cette fois, c'est pas un petit cycle de violence qui va disparaître vite. Je commence à faire des sujets et effectivement, là, ça commence à être un peu compliqué. D'abord, du point de vue purement logistique et physique, faire un bulletin de nouvelles à la radio israélienne qui est diffusé à 7h du matin, ensuite filmé toute la journée dans des conditions parfois un peu compliquées, des jets de pierre et de la répression. Je crois que c'était encore Antenne 2, j'ai dit écoutez, on choisit. Moi je peux pas, c'est ou ça ou ça. Ou j'arrête la télé, ou j'arrête la radio, si vous me voulez, on fait un contrat en bonne et due forme. Et c'est là que Claude Carré, rédacteur en chef, patron de l'information de France Télévisions, de France 2, a décidé de m'intégrer à la rédaction. Tout étant entendu que je ne travaille pas à Paris, mais je travaille bien à Jérusalem et je suis devenu donc envoyé spécial permanent.
D'accord, mais vous n'avez pas coupé les ponts avec toute l'équipe de Col Israël, Charles Anderlin, parce que vous avez entre-temps rencontré Daniel Kriegel, qui travaille avec vous à la radio, et que vous avez épousé.
Moi, j'avais divorcé, et puis je suis tombé sur Daniel Kriegel, que j'ai également épousé en 90.
Et qui est aussi journaliste.
Elle est aussi journaliste, elle l'est devenue, d'ailleurs elle a été ma stagiaire.
C'est-à-dire qu'elle a travaillé, elle est rentrée à Col Israël et elle a été votre stagiaire avec qui vous avez fait des brèves, donc, Charles Anderlin.
Elle a fait des brèves, je lui ai appris à faire du montage audio et puis ce qu'elle fait très bien. Et d'ailleurs, elle a très bien réussi comme journaliste.
Tout à fait, puisqu'elle est aujourd'hui correspondante du Point à Jérusalem.
Oui.
Mais alors, pour entrer dans les questions un peu plus personnelles, comment vous êtes arrivé à partir de ce moment-là à concilier vie de journaliste et vie de couple? Parce que finalement, ça doit parler toujours boulot à la maison, Charles Anderlin.
Écoutez, oui et non. Je crois que être marié à une journaliste facilite les choses. On comprend beaucoup plus facilement que les travaux et les sujets que l'autre doit faire, et puis on peut s'aider mutuellement. Daniel me relie, je la relie, on fait ça ensemble.
En revanche, le fait de vivre dans une zone aussi tourmentée, d'affronter le risque en famille, surtout quand on exerce ce métier, est-ce que c'est pas difficile, Charles Anderlin?
Oui, il y a des périodes, effectivement, quand il y a eu, par exemple, les périodes des grands attentats à Jérusalem, oui, c'est quelque chose a explosé quelque part. Alors, on téléphone, qui est où? C'est d'abord le cercle restreint. Tu vas bien? Oui, où tu es? Où sont les gosses? Où sont les petits? Bon, ok, tout va bien. Ça, c'est la première réaction. La seconde réaction, c'est, et qu'est-ce que je fais maintenant? J'appelle Paris, Daniel travaille aussi pour le Canada et la radio belge. Où est mon caméraman? Et puis Daniel, où est-ce que je peux avoir du son? Mais c'est quand même une région où régulièrement on fait face à une menace au quotidien.
Alors revenons dans les années 80 et en 88, vous obtenez le titre de grand reporter, Charles Anderlin. Est-ce que ce statut a changé quelque chose à l'exercice du métier ?
Écoutez, toutes ces définitions et ces statuts, c'est des affaires de salaire. Donc quand on progresse quelque part, on finit par avoir un titre qui correspond à une augmentation de tant d'euros. Pour moi, ça ne change rien.
Même en termes de reconnaissance.
Oui. Maintenant, être chef de bureau, ça veut dire aussi avoir des responsabilités et avoir des moyens. C'est-à-dire la possibilité de sortir, la possibilité de se déplacer, la possibilité de commander des employés, des images, de donner des instructions aussi, alors que le travail de radio, c'est quand même une rédaction bien limitée, avec un téléphone et une bonne liaison et un petit enregistreur, on fait tout. La télévision, c'est toujours un moyen extrêmement lourd.
Et vous avez fait de la radio, vous avez fait de la télévision, vous avez une vie déjà bien remplie. Et à cette époque, vous ouvrez encore un nouveau chantier, Charles Anderlin, le projet de biographie de Yitzhak Shamir, premier ministre israélien pendant cette période, entre 1983 et 84, puis de 86 à 92. Comment cette idée germe-t-elle ?
Parce qu'il n'y avait pas de biographie de Shamir. Et que mes amis à gauche me disaient « il n'est pas intéressant ». C'est un bloc, c'est la droite, il fait rien, il fait juste les colonies. Et écoutez, ça suscite la curiosité, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est. Alors on racontait qu'il était un des chefs du groupe Stern, le terrorisme anti-britannique. Vers les 87-88, j'ai commencé à ramasser des interviews sur Shamir.
Alors, dernière question, comment vous avez mené l'enquête sur Shamir ?
Les archives, tout ce qui est faisable, tout ce qu'on peut ramasser, et puis commencer à retrouver des témoignages d'anciens, de gens qui l'avaient connu en Pologne, qui étaient encore vivants, de gens qui l'ont connu dans la clandestinité au groupe Stern, et ça c'est des histoires fabuleuses. C'est une des périodes de la région, de l'histoire de la région que je préfère, parce que c'est fou.
Très bien, merci Charles Anderlin. Demain, nous aborderons donc cette enquête et la couverture du processus de paix dans les années 90. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Judith Mayer avec Charles Anderlin. À voix nue, attaché de production Claire Poissignon, prise de son Cédric Audra, réalisation Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.